Chapitre 4. Les deux solis. Il s'était donné rendez-vous à la bibliothèque de la gare de Charing Cross pour une heure. En conséquence, M. Frank Cross s'y trouvait à midi un quart, allant et venant à grands pas dans son impatience, et chaque fois qu'une femme émergeait de l'entrée, s'arrêtant de l'air d'un pointeur devant une perdrix. Avant d'arriver à la gare, il avait été hanté de l'idée que peut-être Maud éprouverait la tentation de venir de bonne heure. Si donc elle venait et qu'elle ne le trouvât point là, chaque seconde passée avec elle lui était si précieuse que, dans le trajet qu'il avait fait pour aller à sa rencontre, il avait plusieurs fois changé de cab parce que celui-ci lui semblait avoir des chevaux plus rapides que celui-là. Mais maintenant qu'il était à destination, il reconnut qu'elle tenait exactement parole, qu'elle ne serait ni en avance ni en retard. Et pourtant, avec le défaut de logique propre aux amoureux, il oublia bientôt que c'était lui-même qui était en avance. À mesure que le temps s'écoulait, il s'agitait, et vers une heure moins le quart, il se mettait à arpenter le sol d'un air sombre, le découragement peint sur ses traits, plein de pressentiments mélancoliques, imaginant mille raisons misérables pour cet inexplicable retard. Bon nombre de gens le regardèrent attentivement en passant, et nous pouvons bien faire comme eux. Au point de vue personnel, Frank Cross n'était ni grand ni petit, mettons 5 pieds 3 pouces pour être exact. Il avait la structure solide et la démarche élastique du jeune homme qui a cultivé l'athlétisme dès l'enfance. Sa figure était d'un brun de tan, malgré les heures qu'il passait dans la cité, mais sa chevelure et sa légère moustache étaient d'un blond filasse, et ses yeux, ce qu'il y avait de mieux dans sa figure, avaient une nuance d'un bleu délicat, une expression qui pouvait varier depuis l'extrême tendresse jusqu'à une dureté fort accentuée. Orphelin, tout l'héritage qu'il avait reçu de ses parents se réduisait à un certain brio artistique qu'il tenait de sa mère. Ce n'était pas assez pour qu'il pût vivre, mais cela s'était transformé en une appréciation très fine et une certaine ambition littéraire qui mettait dans son caractère des lumières et des ombres fort propres à en faire quelque chose de complexe et par là même d'intéressant. Ses meilleurs amis ne pouvaient méconnaître les ombres, mais en somme, c'était les ombres projetées par de la lumière. La force, la virilité, l'énergie passionnée, la faculté de sentir profondément, ce sont là des qualités qui se paient. Il y avait je ne sais quoi du sauvage, très peu, mais enfin, des traces perceptibles du sauvage chez Frank Cross. Son amour intense du grand air et de l'exercice physique l'indiquait. Il laissait aux femmes l'impression, non dépourvue d'agrément, d'un homme dont la nature recèle des profondeurs inexplorées, dans lesquelles n'avait point pénétré celle qui le connaissait le plus intimement. Il pouvait se faire que dans ces coins obscurs se cachât l'âme d'un saint ou celle d'un pécheur, et c'était une agréable tentation que d'y regarder à la dérobée pour découvrir laquelle des deux. Jamais femme ne le trouva insipide. Peut-être eût-il mieux valu pour lui qu'elle l'eût se jugé telle, car son naturel impulsif ne se serait jamais contenté d'une glaciale sympathie. Ainsi que nous le voyons sans peine, c'était donc un homme qui avait un passé, mais c'était en effet un passé, maintenant que Maud Selby était venue, tel qu'un ange de lumière, se mettre sur le chemin obscurci de sa vie. Son âge, bientôt 27 ans. On aurait pu dire en sa faveur une ou deux choses qu'il n'en aurait pas dites lui-même. Il était fils unique et orphelin, mais il avait adopté ses grands-parents, qui étaient restés sans un sou après la mort de son père, et, au milieu des difficultés où ils se débattaient, il avait trouvé le moyen de leur assurer une existence confortable dans un petit cottage du comté de Worcester. Il ne leur avait jamais parlé de ses embarras, par crainte de leur faire trouver leur position pénible. Aussi, quand ils recevaient leur chèque trimestriel, ils voyaient là une marque de bonne volonté qui, après tout, n'avait rien de bien extraordinaire de la part de leur opulent petit-fils de la cité, et ils n'avaient pas la moindre idée de ce que cela pouvait lui coûter. Et de son côté, sans croire agir en homme vertueux, il le faisait parce que cela lui paraissait un devoir tout naturel. Il s'était appliqué avec persévérance à sa besogne. il avait reçu un avancement rapide dans la compagnie d'assurance où il avait débuté comme petit employé. Il s'était conquis la bienveillance de ses chefs par la franchise, le naturel de ses manières, et on l'avait retenu comme joueur dans les 11 de l'équipe de cricket de Surrey. Ainsi donc, sans aller jusqu'à dire qu'il était digne de Maud Selby, on pouvait se risquer à soutenir, si la chose pouvait se faire sans blesser la modestie naturelle qui était un de ses charmes, qu'il en était aussi digne qu'aucun des jeunes gens en état de se mettre sur les rangs. Cette âme d'artiste qui était la sienne avait passé des tropiques de l'attente aux régions arctiques de la réaction pour tomber finalement dans un sombre désespoir et constater avec une farouche conviction que Maud avait certainement absolument renoncé à lui quand l'horloge sonna 1 heure et la vibration durait encore que Maud accourait sur le quai d'arrivée. Fallait-il qu'il se fût fatigué la vue à regarder les autres femmes au point qu'il lui fallut regarder à 2 fois quand elle fut là en personne? La tournure d'une grâce achevée, dans sa coquetterie, sa perfection, le port si élégamment féminin de la tête, le pas vif, élastique, la lui eût se fait deviner entre 10 000. En la voyant, il sentit son cœur bondir, mais il avait l'aversion de tout Anglais pour l'expansion. En conséquence, il se dirigea rapidement de son côté pour l'aborder d'un air impassible, mais avec, dans les yeux, une expression telle qu'elle n'eût rien demandé de plus. « Comment allez-vous ? Comment vous portez-vous ? » Il resta quelques instants à la contempler sans mot dire. Elle avait ce costume qu'il aimait tant, une jupe de mérinos gris-argent, avec la jaquette de même, et une blouse de soie pongée blanc, comme devant. L'étoffe était bordée d'un feston de nuances plus claires. Maud était coiffée d'une toque grise, avec un peu de blanc sur le côté, une voilette qui atténuait sans le cacher le brun foncé de ses boucles et la fraîcheur de sa figure presque enfantine. Elle avait des gants de suède gris et les 2 petits souliers pointus de cuir jaune qui passaient par-dessous sa jupe étaient les seuls détails d'une couleur un peu tranchante qu'on aperçut dans sa mise. Cross avait, par hérédité, l'œil artiste. Il ne pouvait faire mieux que de rester immobile, en contemplation enchantée. Il était plein d'admiration, de respect, d'étonnement, à l'idée que cette créature parfaite en viendrait vraiment à proclamer qu'elle était à lui, tout à lui. Qu'avait-il fait? Que pouvait-il faire pour la mériter? Elle leva les yeux pour lui jeter de côté un regard malicieux, accompagné de ce sourire plein d'un éclat provoquant qui était un de ses charmes. « Eh bien, monsieur, êtes-vous satisfait ?»« Corbleu, c'est beau, splendide !»« Enchanté, je pensais bien que vous le seriez, puisque vous aimez tant les gris. En outre, c'est plus frais par ce temps-ci. J'espère que vous n'avez pas attendu. »« Oh non, tout va bien. »« Vous aviez l'air solennel quand je vous ai aperçu. » « Vraiment ? Et aussitôt après, vous avez fait un saut. »« Vraiment, j'en suis fâchée. »« Pourquoi ? Je ne sais pas, j'aime que nos sensations soient bien à nous et je ne tiens pas du tout à les montrer à qui que ce soit. Je conviens que c'est absurde, mais c'est instinctif. »« Ne vous tourmentez pas, mon cher, vous n'avez pas sauté bien haut, après tout. »« Où allons-nous ? Venez par ici, Maud, dans la salle d'attente. » Elle le suivit dans la salle sombre, enfermée, poussiéreuse. Des banquettes jaunes et nues délimitaient un carré de linoléum brun. Un ouvrier, sa femme et son enfant étaient assis dans un coin, attendant avec cet air morne des pauvres gens. Ils allaient partir pour une excursion du samedi et s'étaient trompés sur l'heure de leur train. Maud Selby et Frank Cross s'installèrent dans l'autre coin. Il tira de sa poche un écrin de joaillier et enleva le couvercle. Quelque chose scintilla dans le coton. « Oh, Frank, c'est donc bien cela ? » ?»« Le trouvez-vous à votre goût ?»« Comme il est large, celui de maman est tout à fait mince. » En ce temps-là, on les portait minces. « Il est beau, puis-je l'essayer ?»« Non, ne le faites pas, il y a une superstition à ce sujet. » Mais si, par hasard, il n'allait pas. Oh, pas de danger. J'ai pris pour mesure votre bague qui a un saphir. » Je ne vous ai pas à moitié assez grondé au sujet de cette bague à saphir. À quoi songez-vous donc de mettre 22 guinées à une bague ? Oh oui, monsieur, c'était bien le prix, car j'ai vu l'appareil hier à la Compagnie des Orfèvres. Cher ami, quelle extravagance ! J'avais mis l'argent de côté. Oui, mais pas pour cela. Pour rien qui fût à moitié, au quart, aussi important. J'ai demandé que l'anneau fût de la même dimension. Ainsi, il est sûr qu'il ira. Maud avait relevé sa voilette et restait à regarder dans le creux de sa main le menu cercle d'or sur lequel le pâle et humide soleil de Londres tombait par la fenêtre, jetant un reflet cuivré sur les boucles folles de la jeune fille. C'était une belle figure que la sienne, mais plus belle par son expression, sa sensibilité, sa finesse, son air si exquisément féminin, son rayonnement d'innocente étourderie, sa malice de gamine dans les yeux, et avec tout cela, une profondeur dans l'expression, une tendresse délicate dans la bouche, qui faisait deviner un caractère plein de courage, capable d'aller jusqu'aux extrêmes dans la patience et le dévouement. Le simple admirateur des charmes physiques aurait passé devant elle sans la remarquer. Ainsi eût fait celui qui n'est frappé que des signes extérieurs, manifestes, du caractère. Mais, aux yeux d'un homme qui savait voir, de l'homme qui avait l'âme assez intellectuelle pour répondre à cette âme, de l'homme dont le regard était capable d'apprécier le charme subtil qui réside dans l'âme en même temps que dans le corps, il n'y avait point dans tout Londres, en cette journée du milieu de l'été, de jeune fille plus attrayante que Maud Selby, en son costume de mérinos gris, avec le soleil de Londres qui mettait un reflet cuivré sur ses boucles brunes. Elle rendit l'anneau et une expression plus grave parut sur sa figure mobile. J'éprouve la sensation dont vous parliez dans votre lettre, Frank. Il y a là quelque chose de tragique. Je le porterai toujours. Tout l'avenir va venir s'enrouler autour de ce petit anneau. Est-ce que cela vous fait peur ? Peur ? Sur ce mot, le gant gris se posa un instant sur la main de Frank. Je ne saurais avoir peur de quoi que ce soit si vous êtes avec moi. C'est vraiment extraordinaire, car je suis naturellement si prompte à m'effrayer. Mais si j'étais auprès de vous dans un accident de chemin de fer, n'importe où, ce serait exactement la même chose. Vous le voyez, j'en arrive à faire partie de vous-même, en quelque sorte, et vous avez assez de courage pour deux. « Je ne me targue pas d'avoir du courage, » dit Frank. « Je crois avoir les nerfs aussi solides que le premier venu. » La toque grise de Maud s'agita de haut en bas et de bas en haut. « Oui, je sais à quoi m'en tenir, » dit-elle. « Vous vous faites une idée si fausse de moi. À certains moments, cela me rend heureux. À d'autres moments, j'en souffre cruellement, car je me sens un vil imposteur. » Vous vous figurez que je suis un héros, un homme de génie, que sais-je encore, et je suis certain d'être un jeune personnage tout aussi ordinaire que ceux qui circulent dans Londres et qui n'est pas plus digne de vous que... Tenez, que le premier venu. » Elle rit, ses yeux brillèrent. « J'ai plaisir à vous entendre parler ainsi, » dit-elle. « C'est là justement ce qui me paraît si beau en vous. » C'est peine perdue que de vous prouver que vous n'êtes pas un héros, alors que vos protestations mêmes sont regardées comme la preuve que vous en êtes un. » Frank haussa les épaules. « Je me borne à espérer que vous vous en apercevrez peu à peu et non pas tout d'un seul coup, » dit-il. « Maintenant, Maud, nous avons devant nous la journée entière et Londres tout entier. Qu'allons-nous faire ? Je tiens à ce que vous le disiez. » « Je suis tout à fait heureuse, quoi que nous fassions. Je suis contente de rester assise ici, avec vous, jusqu'à ce soir. » Cette manière à elle de concevoir un jour de vacances les fit rire tous les deux. « Allons, venez, » dit-il, « nous discuterons cela en chemin. » La famille de l'ouvrier attendait toujours. Maud, en sortant, donna un shilling à l'enfant. Elle était si heureuse qu'elle voulait que tout le monde aussi fût heureux. Avec la légère rougeur sur ses joues et la lumière qui brillait dans ses yeux, elle semblait la personnification de la jeunesse, de la vie et de l'amour. Un vieux gentleman de haute nature s'arrêta tout court pour la regarder et la suivit des yeux, l'air ravi, jusqu'à ce qu'elle eût disparu. Une joue avait jadis rougi, des yeux s'étaient animés jadis à ses paroles, d'heureux jours autrefois étaient revenus de l'oubli pour un instant. « Prendrons-nous un cab ?»«
Oh, Franck, il nous faut être économes, marchons !»«
Je ne peux pas, je ne veux pas être économe aujourd'hui. »
« Allons bon, voyez-vous quelle fâcheuse influence j'exerce sur vous ?»«
Influence des plus démoralisantes, mais nous n'avons pas encore décidé où nous irions. »«
Qu'est-ce que cela fait du moment que nous sommes ensemble ?»«
Il y a un beau match à l'Oval, les Australiens contre le Surrey. Tiendrez-vous à le voir ?»«
Oui, cher, si cela vous fait plaisir. » »«
Puis il y a des matinées dans tous les théâtres. »
Vous aimeriez mieux être au grand air ?
Je ne tiens qu'à une chose, à ce que vous vous amusiez.
Ne craignez rien, c'est ce que je ferai.
Bon, alors, pour commencer, je propose de déjeuner. Ils traversèrent la cour de la gare et passèrent près de la belle vieille croix de pierre. Au milieu des fiacres, des voitures à quatre roues, des voyageurs pressés, des cochers qui flânaient, s'élevait ce charmant souvenir du Moyen-Âge, pieux monument élevé par un grand roi plantagenet à sa femme bien-aimée. Il y a 600 ans, dit Franck, comme il s'arrêtait pour regarder, que cette vieille croix de pierre fut achevée. Autour d'elle se groupèrent des héros et des chevaliers cuirassés pour rendre hommage à celle dont la mémoire était honorée par le roi. Maintenant, des commissionnaires en pantalons de velours à côtes occupent la place où se tenaient les chevaliers, et les machines sifflent à l'endroit où les héros sonnèrent de la trompette, mais la vieille croix est restée la même et au même endroit. Un petit détail comme celui-là est bien propre à vous faire sentir la continuité dans l'histoire de notre pays. Maud insista pour apprendre quelques détails sur la reine Éléonore, et Franck lui apprit le peu qu'il en savait pendant qu'il parcourait le strand encombré. Elle était femme du roi Édouard Ier et c'était une femme superbe. Ce fut elle, vous vous en souvenez, qui suça la blessure quand il fut frappé d'un coup de poignard empoisonné. Elle mourut quelque part dans le nord et il fit transporter son corps dans le sud pour l'ensevelir dans l'abbaye de Westminster. Partout où il s'arrêta pour la nuit, il fit édifier une croix. C'est pour cela qu'il y a une série de croix traversant toute l'Angleterre pour marquer les endroits où fut interrompu ce triste voyage. Ils avaient fait demi-tour pour longer Whitehall et dépasser les gros cuirassiers montés sur leurs chevaux noirs à la porte des Horse Guards. Frank montra du doigt une des fenêtres de la vieille salle des banquets. « Vous avez vu un souvenir d'une reine d'Angleterre, dit-il. En voici un qui se rapporte à un roi. »
« Comment cela, Franck ?»«
Je crois que c'est par cette fenêtre que Charles Ier passa pour aller sur l'échafaud où on lui trancha la tête. Ce fut la première fois que le peuple affirma sa volonté d'avoir autorité sur son roi. »«
Pauvre homme, dit Maud, il était si beau et si bon, mari et père. »«
Ce sont les bons rois qui peuvent faire des rois dangereux. »«
Oh, Franck !»
Un roi qui ne songe qu'au plaisir ne se mêlera pas des affaires de l'État. Mais s'il est consciencieux, il accomplit de son mieux ce qu'il prend pour son devoir, et c'est ainsi qu'il fait du mal. Voyez par exemple Charles. C'était un très honnête homme, et pourtant il causa une guerre civile. Georges III était un homme de mœurs exemplaires, et cependant il nous fit perdre l'Amérique stupidement, et il faillit nous faire perdre l'Irlande. Ils eurent tous deux pour successeurs des hommes foncièrement dépravés qui nous causèrent bien moins de mal. Ils avaient atteint l'extrémité de Whitehall et devant eux se déployait le splendide panorama de l'abbaye de Westminster et les édifices du Parlement. Le plus imposant des anciens édifices anglais était rapproché du plus beau des édifices modernes. Comment cette nation dépourvue de goût et vouée à l'utilitarisme a-t-elle pu construire un édifice aussi gracieux ? Cela restera un sujet d'étonnement pour le voyageur.
Le soleil se jouait à travers les dorures du toit et les hautes tours se dressaient dans la légère buée londonienne. On eût dit un somptueux palais du rêve. C'était un centre bien en harmonie avec le gouvernement qui impose ses indulgentes lois à 1/5 de l'espèce humaine, gouvernement soutenu par une armée si faible qui ne subsiste que grâce au consentement des gouvernés. Franck et Maud s'arrêtèrent ensemble pour le contempler. « Comme c'est beau !» s'écria-t-elle. « Comme cette dorure donne de la lumière à tout l'édifice !» Et qu'il est absurde de n'en pas faire un plus fréquent emploi dans notre pauvre architecture de Londres, dit Franck. Figurez-vous combien le dôme de Saint-Paul, s'il était doré, ferait un effet grandiose, vu comme un soleil qui se lèverait sur la cité. Mais voici notre restaurant, Maud, et le gros Ben dit qu'il est 1h3/4.